Le film documentaire « Vieux marins et leurs femmes » sera projeté au cinéma Élé le jeudi 5 juin à 17h30. Frédéric Violot, réalisateur du film, bonjour.
Bonjour Roland.
Ça va bien Frédéric ?
Ça va très bien, merci.
Film documentaire et de témoignage sur une période révolue de la vie locale ilaise, es-tu d'accord ?
C'est absolument ça l'idée, c'était vraiment d'avoir des témoignages de gens qui ont vécu cette période, on va dire entre 1945 et 1990, ce monde des marins, et qui nous racontent comment eux, ils ont vécu ça.
Simple de convaincre ces différents anciens marins et leurs femmes de témoigner de leurs souvenirs ?
Ouais, vraiment, ça a été assez facile grâce à des connaissances que je pouvais avoir, hein, puisque j'ai quand même fait déjà quelques films sur l'île. Et puis grâce au Musée de la Pêche, un grand merci à Dany Tarot et à tous les bénévoles du Musée de la Pêche qui m'ont donné des idées, qui m'ont dit « va voir l'un, va voir l'autre ». Et tout de suite, je peux dire que j'aurais pu interviewer tellement plus de gens. Mais voilà, à un moment donné, il fallait se limiter. Donc, merci à ceux qui ont participé. Désolé un petit peu pour ceux que j'ai pas intégrés. Mais oui, ça a été facile de les convaincre.
De 45 à 90, ça a créé une grande période tout de même.
Absolument, mais une période qui a vu toute une révolution, on va dire, dans le mode de vie. Et effectivement, la pêche, secteur essentiel à l'IDU à l'époque, a été influencé par le progrès technique, par l'évolution des outils. Et ça a changé le mode de vie des gens.
Témoignages qui interpellent, émouvants et qui font sourire, es-tu d'accord ?
Oui, c'était vraiment ça l'idée, c'était avec le panel de personnes qui interviennent, qui parfois ont des expériences similaires, je pense notamment aux marins, ils ont tous commencé de la même façon, à 13-14 ans, une première marée pour voir si ça va, et puis après
À 13 ans ?
Voilà, après on embarque, et
ou
puis
pas.
Ensuite...
Où on est obligé d'embarquer.
C'est ça.
C'est dit aussi dans le film.
Absolument. Le mode de vie était tel qu'à un moment donné, il fallait déjà gagner un petit peu d'argent à cet âge-là. Donc, on n'avait pas le choix. Parfois, on devait embarquer. Donc, des choses très similaires, d'autres choses avec des parcours très différents. Les hommes et les femmes, parce qu'évidemment, ils n'ont pas vécu la pêche de la même façon. Mais l'idée aussi d'être sur cette temporalité 45-90, parce que c'est la sortie de la guerre. Et puis, vraiment, l'arrivée du progrès jusqu'à des technologies qu'on connaît aujourd'hui. En gros, c'est l'arrivée de la radio juste après la guerre, jusqu'à l'arrivée du GPS qui a tout changé en termes de navigation.
Ils et elles témoignent de différentes périodes de leur vie.
C'est ça. On va dire l'enfance ou la fin de l'enfance quand ils ont commencé à travailler. Les hommes en mer, mais les femmes à l'usine aussi. Hein. C'est bien dit. Je pense à Thérèse Voisin notamment qui parle de son expérience ou Dany Tarot.
Et car puis les après, femmes travaillaient à l'usine.
Voilà.
Après, elles ont fait où on mêle les filets.
Exactement. Elles étaient, comme dit à un moment donné, cadet dans le film.
Elles s'occupaient également de la famille.
Voilà. Les femmes n'étaient pas les deux pieds dans le même sabot. Elles étaient aussi très actives. Toute leur vie a été marquée par la pêche parce qu'elles se sont donc mariées avec des marins. Il a fallu ensuite gérer la famille dans un contexte très particulier quand les hommes ne sont pas là, avec aussi une époque où les bateaux n'étaient pas aussi sécurisés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de communication, de facilité de communication qu'aujourd'hui. Donc ça imposait un mode de vie très particulier qu'on a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui avec toutes les facilités, tout le progrès technique. Mais je pensais que c'était vraiment essentiel de pouvoir collecter ces témoignages-là, parce qu'effectivement, et on peut le dire, je pense, sans problème, ces gens-là sont un peu vieillissants, et cette mémoire risque de disparaître. C'était vraiment l'idée de la garder dans l'esprit, dans la mémoire collective ilaise.
Les marins parlent de leur période de mousse, vie professionnelle, retraite, tempête, naufrage, technique de pêche et évolution technique.
Exactement, il y a tout un tas de thématiques qui sont comme ça égrenées, dans l'idée parfois que ça se complète ou que parfois ils se contredisent. Hein. Certains n'ont pas abordé les choses de la même façon, il y en a qui ont adoré ce métier, il y en a qui ont détesté ce métier. Hein. On a notre ami Gustan Vio, que je salue, qui est vraiment un homme formidable.
Lui, il a pas aimé. Gustan Vio, directement, il dit au début du film.
Absolument.
J'ai pas aimé, j'étais obligé pour nourrir ma famille.
Et c'est ça. Dans les grandes familles, je pense à lui qui était un des enfants parmi 12. Gustan explique bien que dès qu'ils avaient 12-13 ans, leur père allait sur le port. Il était marin lui-même. Il allait sur le port chercher une place. Et tous les garçons sont devenus marins-pêcheurs parce qu'au moins, ils commençaient à gagner un petit peu d'argent pour la famille.
Les femmes de marins rencontrent du mari également. Il y a un témoignage qui m'a fait sourire. Explique-nous, Dany Tarot.
Effectivement, Dany, elle dit bien dans le film qu'elle a rencontré son mari sur le port, presque, on va dire, un petit peu par hasard, entre groupes de jeunes. Ils ne se connaissaient pas parce qu'elle, elle était du port et lui, il était du bourg.
Ils ne s'étaient jamais croisés.
Aujourd'hui, ça nous paraît fou.
Ouais, c'est ça.
Mais effectivement, à l'époque, les villages vivaient un peu plus en autarcie. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des écoles à Saint-Sauveur. Donc, les enfants de Saint-Sauveur restaient au bourg et les enfants du port restaient au port. Ils ne se connaissaient pas toujours.
Vie également, on en parlait pendant la période de pêche.
C'est ça. Les hommes partaient sur des temps assez longs, au chalut ou au thon, pour ceux qui faisaient la grande pêche. Et puis les femmes restaient à terre et attendaient Alors, quand les hommes, en plus, partaient sur des périodes où il y avait des tempêtes, les femmes étaient dans l'attente et parfois dans la crainte, dans la peur de savoir ce qui allait se passer. Malheureusement, il y a eu des naufrages ou en tout cas des bateaux aussi qui sont revenus avec des vraies avaries. Et puis, pour certains, justement, pour éviter ça, ça a été le choix de la petite pêche. De se dire, on ne va pas partir aussi longtemps et justement aussi pour assurer une vraie vie de famille.
Ces femmes parlent également de tempêtes, de naufrages, de l'évolution technologique.
Voilà comment elles ont vécu ça depuis la Terre. Les tempêtes, quand leur mari était en mer, c'était pour elles un vrai souci. Malheureusement, certains ont connu des vrais drames.
Ils racontent dans le film.
Exactement. Il y a un témoignage très fort de, malheureusement, une dame de l'île Dieu qui a perdu son mari en mer. On en connaît tous, mais heureusement, il y a moins de cas comme ça. Mais à cette époque-là, effectivement, je pense que c'était important qu'on puisse transmettre cette idée que dans cette génération-là, qui est un peu la génération de nos grands-parents, ils ont vécu ça presque chaque année. À un moment donné, Marc Tarot le dit dans le film, il y avait des naufrages presque chaque année parce que la consistance, on va dire la robustesse des bateaux n'était pas la même.
L'évolution technique, ça leur a permis de dialoguer plus facilement parce qu'avant, il y avait juste la vacation pêche par le poste.
Voilà, et je pense que nous, voilà, Roland, toi, tu as connu ça aussi, la vacation pêche. Notre génération l'a connue. La génération d'aujourd'hui ne sait plus ce que c'est la vacation pêche. Alors que nous, on était un petit peu aussi collés dans notre enfance au poste de radio. On écoutait ce qui se passait en mer. En tout cas, on avait les informations deux fois par jour. Et oui, pour les femmes, c'était le lien essentiel. C'était parfois les seules nouvelles qu'ils avaient pendant toute une marée de ce qui pouvait se passer en mer. Aujourd'hui, il y a Internet à bord des bateaux, tout le monde a WhatsApp, même quand ils sont au large, ils peuvent communiquer. Ça a complètement changé la vie des marins. Je pense aussi à la météo, qui est un facteur très important. À l'époque, ils partaient en mer sans vraiment savoir ce qu'allait se passer. Ils prenaient un peu un risque, des fois, de partir.
Il y a une femme de marin aussi qui témoigne que son mari était en mer durant la période de Noël, même à Noël.
Eh oui.
Il est rentré à cause d'une tempête et il est reparti le lendemain direct.
Exactement. Ça, c'était vraiment une période où les marins, en fait, n'avaient pas de congés. Il n'y avait pas des congés payés. Les marins n'étaient payés que quand ils naviguaient. Ils ne faisaient pas les roulements comme ils font aujourd'hui. Donc, il fallait pour eux tout le temps partir en mer. Pas de mer, pas de revenus. Donc, pour faire vivre la famille, il fallait y aller et parfois, il y avait des vrais sacrifices à faire. Ça pouvait être pendant les fêtes, ça pouvait être Noël ou Pâques. Et donc, on imagine bien pour les familles et notamment pour les enfants, ne pas avoir le papa à Noël, c'est pas facile à vivre.
Il y a une personne, un marin qui témoigne, qui dit que les enfants ne reconnaissaient pas son père.
Mais parfois, c'est vrai qu'il y a eu ce cas de figure. Quand les enfants étaient petits, c'est vrai que si un marin partait un ou deux mois en mer, quand il revenait, effectivement, les enfants pouvaient se demander, avoir une petite hésitation, est-ce que c'est bien papa qui revient ? Voilà, c'est cette coupure qu'on ne connaît plus vraiment maintenant, ou peut-être ceux qui font la marine marchande, il en reste encore à l'île-Dieu. Quand les enfants sont petits, c'est pas facile. En tout cas, ce sont vraiment les femmes qui ont élevé les enfants, ça c'est clair.
Les femmes faisaient tout.
Mais voilà, c'est bien dit, à la fois par les femmes et par les hommes. Elles étaient les piliers de la maison, elles géraient les budgets. Madame Bessonnet, je pense à elle, elle dit bien qu'elle a dû gérer. Alors Claude Bessonnet, la femme de Marcel Bessonnet, elle dit bien qu'elle a dû gérer la construction de leur maison aussi. Donc voilà, gérer le chantier avec les artisans, c'est pas quelque chose qu'on imagine a priori être fait par les femmes, mais si, il a fallu qu'elles assument tout un tas de responsabilités, et elles l'ont bien fait.
Tu mets également dans ce film documentaire des images d'archives.
Voilà, alors un grand merci à tous ceux qui ont accepté qu'on utilise des images d'archives. Je pense à Jeanlin Henry, je pense à Monsieur Michel Charouot de la famille Miquette, je pense aussi au fils de Marcel Mussa, aux enfants d'Anatole Charouot, il y a plusieurs, la famille voisin bien sûr, qui m'ont autorisé à utiliser des archives. Et je voulais vraiment, effectivement, redonner un petit peu le contexte aussi visuel, qu'on se replonge dans cette époque-là, avec des images à terre, des images en mer, des images de tempête, comme moi, j'en avais jamais vu, parce qu'effectivement...
Des casiers pleins de coltards, enfin,
voilà,
noir à cause du coltard.
Des pêches un peu miraculeuses, des moments de vie à bord, des techniques de pêche comme le chalut qui ont disparu. C'était vraiment l'idée de pouvoir, avec les archives, en plus des témoignages, nous replonger dans cette époque.
Le tonneau total.
Absolument, les tonneaux d'huile.
Ça fait des souvenirs, c'est fou. Hein.
À bord des bateaux, voilà, c'est ce qu'on se disait. Nous, on a vécu ça parce qu'on était aussi, moi, mes deux grands-pères étaient marins-pêcheurs, donc j'ai aussi baigné dans cet univers-là. Et effectivement, on retrouve dans ces images-là, même si c'était avant que nous, on soit nés, des éléments que nous, on a pu connaître et qui aujourd'hui n'existent plus.
N'existe plus, c'est Roland Cadou qui parle mieux de cette période actuellement en 2025, métier de marin, espèce en voie de disparition.
Voilà, c'est la réalité.
C'est
malheureusement,
tout. C'est tout résumé.
C'est ça. Alors après, moi, j'ai pas voulu trop insister dans le film sur cette idée-là qu'effectivement, le secteur de la pêche est en déclin, mais je voulais pas non plus l'occulter. Donc, merci à Roland d'exprimer ça, parce que c'est important. Par ailleurs, il y a d'autres films que j'ai faits pour le Musée de la Pêche. Je pense notamment à un film qui va s'intituler « Avec vents et marées », où j'ai interviewé 3 marins pêcheurs en activité aujourd'hui, et ils disent bien qu'il y a des perspectives. Le secteur de la pêche, ça peut retrouver de l'activité. Alors peut-être pas dans la grande pêche, parce que les investissements sont importants, mais dans la petite pêche, là, tous les bateaux, je pense à Sébastien Rousseau de la Grosse Sardine, par exemple, hein, il dit bien que la ressource est là, le poisson se vend bien, il y a tout pour réussir aujourd'hui dans la pêche. Hein.
Dans ce film aussi, il est dit que la vie était importante au port de la Meule.
Oui, tout à fait. Ben oui,
c'est un souvenir.
On a complètement oublié, mais jusque dans les années, je pense jusqu'au début des années 90, je pense au bateau le Mella, qui je crois a été le dernier bateau de pêche professionnel à être basé au port de la Meule. Mais après-guerre, il y avait, et d'ailleurs on le voit dans les images d'archives, hein, il y avait plusieurs dizaines de bateaux de pêche professionnels qui étaient basés au port de la Meule.
Frédéric, ce film documentaire va-t-il sortir en DVD, être diffusé à la télé?
Alors, dans un premier temps, le film est montré au Ciné-Ilet, d'abord pour remercier tous les gens qui ont participé.
Le jeudi 5 juin à 17h30.
Exactement. Alors, je veux vraiment prendre le temps de citer tous les partenaires. Hein. Ce film, en fait, il m'a été commandé, ou plutôt une série de films m'ont été commandités par le Musée de la Pêche.
Depuis, de l'Île-Dieu.
Voilà, de l'Île-Dieu. L'ancienne présidente du musée, Dani Tarot, m'avait demandé depuis des années d'essayer de faire des nouveaux films pour le musée. Et moi, j'avais un peu botté en touche parce qu'en fait, c'est tellement de boulot à faire que je pouvais pas me lancer comme ça. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu une possibilité pour le faire. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et en fait, j'ai fait des petits films pour le Musée de la Pêche. Parce qu'au Musée de la Pêche, regarder un film de 90 minutes, on n'est pas dans des bonnes conditions. Donc, j'ai fait 11 films qui sont entre 10 et 30 minutes. Et à partir de ces 11 films-là, eh ben, j'ai fait la version 90 minutes qui sera montrée au Musée de la Pêche. Donc ça, ça a été possible grâce au Musée de la Pêche, grâce à l'association Oya Film qui a mobilisé des moyens, notamment techniques, mais qui a aussi pu trouver des financements, grâce à l'association des marins pêcheurs de l'Île-Dieu, hyper important. La conserverie de l'Île-Dieu a aussi apporté un financement qui a été complété par la fondation du Crédit Maritime et des donateurs privés. Et puis, on a eu la chance d'être soutenu par la région des Pays de la Loire, le département de la Vendée et la mairie de l'Île-Dieu. Tout ça pour réaliser un projet assez ambitieux, parce que au-delà de ce film-là, comme je vous disais, il y a 11 petits films qui sont montrés au Musée de la Pêche. Et puis, il y a aussi 2 films. Un sur les métiers à terre d'aujourd'hui, pour expliquer tout l'écosystème de la pêche, la coopérative, l'école de pêche, etc. Et un sur les marins d'aujourd'hui, comme je vous disais, vraiment l'idée de montrer comment les marins d'aujourd'hui travaillent et de ne pas être dans un discours ni nostalgique ni négatif, mais au contraire, un discours positif pour se dire « il y a des perspectives pour la pêche ».
Frédéric, ce film documentaire « Vieux marins et leurs femmes », ça t'a pris combien de temps de travail ?
Ben, ça m'a pris toute l'année dernière quasiment. Hein. Alors en complément du projet sur la fête des fleurs, parce que l'année dernière, c'est vrai que j'étais très mobilisé pour filmer la fête des fleurs avec un petit groupe de jeunes, faire un film documentaire que j'espère proposer à la télévision sur la problématique de comment rester vivre à l'Île-Dieu à 20 ans, en faisant le parallèle entre la fête des fleurs et la recherche d'un logement sur l'île. Donc j'étais là, j'étais très mobilisé par ça, mais c'est vrai que j'avais du temps en plus. J'ai pu me consacrer à tout ce projet sur la pêche. Bon, ça s'est étalé sur un an, mais pas à temps plein, on va dire.
Frédéric Violo, réalisateur de ce film documentaire, on rappelle le nom, Vieux marins et leurs femmes. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci à toi Roland, merci à tous.